les brasseurs, leur objectif, c'est faire de l'alcool. Donc plus il y a de sucre, plus on fait d'alcool. Donc, moins on met de grains, plus on gagne de pognon.
Sur le comptoir de Lisanne, c'est le podcast dans lequel on parle de la bière autour d'une bière. Chaque semaine, je rencontre un ou une invitée avec qui j'explore la bière dans tous ses styles, ses influences, son évolution, son histoire et sa culture. Je suis Lisanne Desroches, brand ambassadrice Ninkasi, et pour cette nouvelle série de podcasts consacrée aux ingrédients de la bière, je suis allée voir ceux qui les utilisent, manipulent, transforment, les brasseurs. Dans cet épisode, nous allons vous parler de céréales et plus précisément de malt. J'ai rendu visite à Bertrand et Nicolas de la ferme brasserie La Soyeuse qui cultive de l'orge non loin de Lyon. Bertrand est le fondateur de la brasserie et Nicolas son fidèle bras droit. Le malt intervient dans les toutes premières étapes de brassage et apporte couleur, saveur et corps à la bière. Bonjour Bertrand, bonjour Nicolas.
Bonjour.
Merci de m'accueillir à la ferme brasserie La Soyeuse. On est toujours dans le Rhône, donc on n'est pas très loin de Lyon. Alors avant de commencer à parler du sujet de ce podcast, j'aurais aimé que vous vous présentiez tous les deux et de me dire un petit peu comment vous êtes tombé dans la bière. D'abord Bertrand, donc, qui est le fondateur de La Soyeuse.
J'ai une formation d'ingénieur textile et ma reconversion date de juin 2000, et on va dire que suite à un certain nombre de péripéties, j'ai décidé de changer d'activité et de faire quelque chose qui ait plus de sens et essayer de faire de A à Z. J'ai eu ma première expérience avec une bière artisanale, puisque je ne connaissais pas du tout avant, avec une personne qui est boulanger-brasseur, qui s'appelle Pierre Lureau, qui est près de Lons-le-Saunier. C'était très très bon, j'ai beaucoup voyagé avec cette bière. Et puis surtout, je me suis rendu compte que c'était aussi faisable à petite échelle. Pour moi, ça a été une révélation, mais enfin, c'était une période où j'avais beaucoup de révélations. Puisqu'après, j'ai eu une révélation dans le pain. J'ai fait aussi des jouets en bois. Et puis, j'ai dit que je restais dans le monde agricole et de me tester sur une ferme plutôt... global en élevage, etc. Parce que pour X raisons, j'aimais bien la biodynamie. Parallèlement, j'ai passé un BTS compta et gestion agricole pour être un bon gestionnaire. Et ça a permis de nous tester aussi avec ma famille. Et donc, on a mis fin à l'élevage, mais on a gardé le pain et la bière. Et en novembre 2002, je suis parti vraiment sur la bière parce que j'étais tout seul. Comme ça, j'étais sûr que j'aurais pas de concurrence, au moins au départ. C'était important pour moi parce que j'aimais bien le produit, parce qu'il se conserve, parce qu'on n'a pas de pertes, parce qu'on peut gérer, quoi. Voilà. Mon premier brassin, c'est novembre 2000. À la cuisine, quoi, avec un kit Brouland. À l'époque, de toute façon, il n'y avait que ça. Enfin, la brasserie, elle a 20 ans, ou pas loin. Ce qui anime La Soyeuse, c'est l'agriculture, puis en bio, et puis aussi les circuits courts.
Et donc, j'ai été également accueilli par Nicolas, qui est le responsable opérationnel / bras droit de Bertrand. Nicolas, toi, comment tu es tombé dans la bière ?
Eh ben, c'était il y a 5 ans. J'ai beaucoup voyagé dans ma jeunesse et j'ai découvert la bière artisanale lors de tous mes périples et notamment lors de mes 2 années d'expatriation à Londres où je me suis dit « Ah, mais c'est incroyable, en fait, la bière peut avoir du goût. » Il y a des produits, il y a des goûts incroyables, il y a des styles qui existent. On n'a pas que ces bières industrielles, puisque c'était fin 2010 et on avait en France que très peu. C'était les balbutiements encore de la bière artisanale. C'était très, très, très confidentiel. Et du coup, je me suis dit, en rentrant en France, mais bon sang, mais pourquoi pas, pourquoi ça n'existe pas ici? Je me suis intéressé, pareil, reconversion. Moi, je suis issu du milieu informatique et commercial, donc pas grand-chose à voir. Bon, partie commerciale, on la retrouve maintenant, mais c'est pas quelque chose qui est très très technique. Et j'ai démarré, en assistant brasseur. On redémarre à zéro à mes 30 ans pour une reconversion aussi. Ça avait plus de sens. J'ai trouvé quelqu'un qui m'a inculqué aussi des valeurs, puisque j'étais dans une autre brasserie pendant une année avant d'être à La Soyeuse. C'était déjà en bio. Et j'ai découvert le circuit court. J'ai découvert d'autres manières de vendre et de produire. Et en arrivant à La Soyeuse, ça a décuplé tous ces côtés-là, puisqu'on est vrai, enfin, il y a vraiment une volonté de faire mieux, de faire bien, ou en tout cas de faire moins pire ici. Et Bertrand nous a transmis, m'a transmis, et aux collègues aussi, je peux parler pour eux, toutes ces valeurs-là. Et la bière est un produit magique. Et du coup, aujourd'hui, j'ai une reconversion totale et je suis très heureux d'être dans ce domaine-là, à travailler ce produit-là qui est magique. Ouais.
Des reconversions qui font du sens, c'est ça?
C'est ça, exactement.
Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Et le sujet, c'est le malt. Donc, on commence une série de podcasts sur les ingrédients de la bière. Alors, il n'y a que 4 ingrédients essentiels dans la bière. C'est l'eau, le malt, le houblon et la levure. Et avec donc si peu d'ingrédients au compteur, donc chaque ingrédient est absolument essentiel à la fabrication de la bière. Le houblon en ce moment est vraiment sous la lumière des projecteurs avec toutes les IPA. C'est vraiment le produit qui a été très mis en avant par les brasseurs craft. La levure a toujours un petit peu ce côté recette secrète de brasseur, un peu le côté magique. Hein, c'est elle qui va transformer, qui va faire de la bière finalement. C'est pas tant le brasseur que c'est la levure. Et le malt, souvent, est laissé de côté. Hein, il a plus autant d'importance, et pourtant en termes de quantité c'est le deuxième ingrédient le plus important après l'eau. Si je ne dis pas de bêtises, en moyenne c'est à peu près 25 kg de malt qu'il faut pour faire 100 litres de bière. Ça dépend de la bière qu'on fait, on en discutera, mais surtout le malt, il va apporter des arômes, des saveurs, du corps, de la couleur, et puis il va surtout fournir les sucres qui vont eux être transformés par notre levure. Puis le brassage commence par le mélange du malt avec de l'eau chaude. Est-ce que, Bertrand, tu peux me dire un petit peu, me décrire qu'est-ce que c'est le malt?
C'est simple, le malt, c'est de l'orge germée. C'est tout. Donc le malt vert, c'est de l'orge germée. Donc, ensuite, il y a deux, ça se partage en deux. Soit on le fait sécher, ce qu'on appelle le touraillage, en respectant certaines températures pour ne pas tuer l'embryon, et puis de l'autre côté ce malt vert, donc l'orge germée, on le torréfie et ça va donner les malts spéciaux. C'est ça.
Donc il y a plusieurs types de malt, parce que certaines personnes pensent peut-être que le malt est une forme de céréale complètement à part.
Non,
c'est l'orge qui a subi le processus de maltage.
Voilà.
Et donc, le processus de maltage, ça commence par humidifier.
Voilà. Ouais. Donc, pour faire germer, en fait, il faut de l'eau, mais pas trop. Parce que si ça reste sous l'eau, quand le grain se réveille, il respire. Et puis, s'il y a trop de dégagement de gaz carbonique, il crève. Et c'est peut-être bête, mais c'est la partie la plus, en fait, quelque part technique. L'objectif du malteur, c'est réveiller les enzymes et puis les réendormir au moment du touraillage. Donc on réendort en séchant, mais pas trop fort.
C'est ces enzymes-là qui seront ensuite
réutilisées. Et en fait, on va choisir une certaine température qui vont réactiver les enzymes, qui va permettre de dégrader l'amidon en sucre en une heure et demie. Il y a des pics d'activité enzymatique. Si vous allez trop bas, ça va mettre des jours même, si c'est vraiment trop bas. Et si c'est trop haut, vous ne ferez jamais de bière. Quand est-ce qu'il faut arrêter en fait, de faire germer? Quand l'orge germe, il va avoir la première feuille qui va sortir. Et en fait, cette première feuille, quand elle est à la moitié de la taille du grain, on sait qu'on a consommé 1% de l'amidon, donc pas trop, mais que ça a servi à générer assez d'enzymes pour que ces enzymes puissent être assez actif et redémarrer lors du brassage. Voilà, donc c'est ça de manière empirique, comment on contrôle la germination, c'est comme ça. Et puis on passe en touraillage. Donc en fait, c'est comme un grand four, il faut au moins 80 cm de couche pour qu'il n'y ait pas des endroits où ça sèche moins. Séchage égale touraillage. Dans toutes les bières, il y a des maltes qui ont des... on dit que c'est des maltes fermentescibles, parce qu'on n'a pas tué les enzymes, et qui vont dégrader l'amidon en sucre, voilà.
Et puis ensuite vient une partie de torréfaction différente selon le grain.
Et sinon, après, si vous voulez faire une bière ambrée ou rousse ou chocolat ou noire et tout ça, et ben vous reprenez votre malt là que vous avez fait germer, pareil, mais vous faites de la torréfaction. C'est le principe du caramel. Donc et donc là, c'est ce qu'on appelle une réaction de Maillard. La fameuse
c'est
réaction.
Le steak.
Donc la réaction de Maillard, on l'a aussi quand on fait de la cuisine ou n'importe quoi. Dès qu'on a moins de 18% d'humidité, la couleur elle part d'une force, ça va très très vite. Donc c'est le principe du caramel. Pour tous ceux qui ont fait un peu du caramel, donc vous mélangez de l'eau et du sucre. Donc quand on fait germer, il y a du sucre, voilà, il y a de l'eau. Et du coup, au bout d'un certain moment, ben ça prend une couleur. Et puis si vous rendez compte qu'il y a beaucoup moins d'eau. Et puis si vous le laissez passer, ben ça devient très vite brun, voire noir. Hein. Et ben c'est le même principe pour la torréfaction. Ça fait la réaction de Maillard. Ça donne du goût et de la couleur. Donc le côté sucré, etc., qui apparaît. Plus l'eau s'enlève, plus ça monte en EBC, quoi, en couleur. Plus ça devient brun, noir, et voilà.
Donc l'EBC pour nos auditeurs,
oui,
c'est un terme technique dans la brasserie qui est le European Brewing Convention. Et c'est la couleur de la bière qui va venir des maltes souvent. Ça peut venir du fruit aussi parfois, par exemple, mais souvent c'est plutôt le malt qui va apporter la couleur. Et ce qu'on décrivait là, c'était les différents types de maltes spéciaux, donc qui peuvent être le Cara, le Munich, jusqu'au malt chocolat, café et bien d'autres, qui vont permettre de faire des bières plus colorées, plus foncées, jusqu'à une bière vraiment, vraiment noire.
C'est ça. mais donc, ça, on dit des maltes spéciaux, c'est-à-dire que même dans des bières... noir, en fait, il y a plus de malt blond. Parce que malt blond ou malt pilsner, c'est la même chose.
Hein, le plus pâle qui est le plus fermenté.
Voilà, c'est ça. Plus, voilà.
Justement, on en parlait juste avant du pain et de l'orge, du blé et de la bière et de ces quatre produits. Pourquoi l'orge est plus appropriée pour le brassage que le blé, par exemple, même si le blé est quand même beaucoup utilisé dans la bière?
Donc, les brasseurs, leur objectif, c'est faire de l'alcool. Donc, plus il y a de sucre, plus on fait d'alcool. Moins on met de grains, plus on gagne de pognon.
C'est clair, précis.
C'est toujours ça. Et donc, le blé, dedans, il y a ce qu'on appelle du gluten, vous savez. Eh bien, le problème du gluten, c'est que ça fait, comment vous dire, ça filtre plus. Parce que en fait, il y a une étape dans le brassage, après l'empâtage, une fois qu'on a tout mélangé, tout ça, une étape qu'on appelle la filtration. C'est-à-dire une bière ou blé, 100% blé, je dis pas qu'on peut pas en faire, mais je pense que les gens qui ont essayé, ils ont essayé une fois, puis soit ça leur fait plaisir de se faire chier, ben ils continuent. Et puis sinon, eh ben, ils se disent, bon ben, c'est une bière au blé, mais on va mettre un peu d'orge dedans parce que sinon, on va y passer la journée, quoi.
Oui, l'orge, elle a une écorce à l'extérieur qui va permettre de filtrer naturellement.
Oui, mais c'est aussi parce qu'il y a du gluten dedans et que ça fait une... je ne sais pas comment vous dire, ça fait une gangue aussi. Il y a aussi cet aspect-là, quoi.
C'est ce qui donne cet aspect un peu trouble qu'on retrouve avec le blé
aussi,
souvent.
Oui. Ouais,
c'est comme si on mettait aussi de l'avoine. L'avoine, c'est une autre céréale qu'on peut utiliser et qui va apporter aussi ce côté... Bah, quand on mélange de l'avoine avec de l'eau, ça fait du porridge.
Ouais.
Donc ça devient cette bouillie tout de suite, très rapidement. Oui. Donc l'effet est quasiment similaire.
Donc c'est pour faire le parallèle. C'est-à-dire, on dit une bière au blé, mais elle n'est pas qu'au blé.
Non, elle n'est pas... Certaines imposent 50% minimum, dépendamment des appellations, mais...
Ouais.
Donc, on est sur une ferme brassicole.
Ouais.
Ça veut dire que vous faites pousser votre propre orge pas loin de là où on se trouve en ce moment.
Oui.
Quel type d'orge exactement vous utilisez?
En fait, il y a deux types d'orge. En fait, ça dépend de ce qu'on appelle le contexte pédoclimatique. Donc, si c'est sec ou pas, et si on a des terrains qui sont bons ou pas. En fait, j'ai pas des terres à céréales. Donc, du coup, moi, j'ai choisi le deux rangs hiver. Alors, pourquoi? Parce que, on va dire, c'est une deux chevaux. Donc, elle fera jamais des années exceptionnelles, mais elle fera toujours quelque chose. Alors que le deux rangs printemps, c'est une Formule 1. Et du coup, quand tout est là, ça marche super bien. À part que s'il pleut pas, c'est sûr que ça marche pas. Et donc, nous, on n'irrigue pas ici. Les céréales, normalement, ça ne s'irrigue pas. Les céréales, ça vient de Mésopotamie. Hein. C'est pas des coins où il fait forcément... Hein, c'est pas l'Angleterre. Donc c'est un non-sens d'arroser les céréales. Donc, au-dessus, là, il y a des montagnes. Il pleut toujours plus. Ben, là-haut, ça se passe beaucoup mieux qu'ici. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi cette orge-là.
D'accord. Nicolas, quand on faisait la visite de la brasserie tout à l'heure, tu nous expliquais que donc avant l'orge était maltée ici, mais que maintenant vous utilisiez un fournisseur externe pour votre orge, donc vous envoyez et vous faites ça de manière commune avec d'autres brasseurs.
Absolument.
Tu peux me
dire. Agriculteur brasseur,
pardon. Alors voilà, avec d'autres fermes brassicoles.
Ouais.
C'est ça. Donc effectivement, on utilise. Au maximum les ressources du coin, avec notamment les savoir-faire pour collaborer, d'une part garder le lien avec les autres artisans qui font les mêmes choses que nous, et surtout pour mutualiser les moyens, que ce soit pour le triage, le stockage et effectivement la partie transport pour réduire les allers-retours. Donc effectivement, on s'associe avec trois autres fermes brasseries du coin pour mutualiser en un seul trajet la récolte annuelle de 4 fermes brasseries qu'on envoie faire Malte et qui reviennent en une seule fois. On n'a qu'un aller-retour, on ne commande pas tous les mois une palette avec des camions qui viennent, etc. C'est aussi un engagement écologique. Alors, pour être clair, on s'embête parce que quand il y a 35 palettes qui arrivent, il faut les stocker, il faut gérer la logistique. Et le stockage, c'est effectivement des grosses contraintes financières et logistiques. Il faut rapatrier le grain, etc. Puisque comme tu as vu ici, on n'a pas une place extensible et le grain, on ne peut pas le stocker là, les 35 palettes. Donc c'est vrai que cette mutualisation nous permet aussi d'avancer un petit peu vers, encore une fois, un petit peu du mieux, un petit peu, on fait moins de trajets, on a un petit peu moins d'empreintes carbone avec ce malt, avec ces céréales qu'on ne peut plus effectivement malter ici, faute de place, faute de moyens. C'est un métier à part entière. On laisse malter les gens qui savent malter.
C'était important pour la soyeuse d'avoir cette démarche locale, RSE, écologique, avec son propre malt, et puis ensuite d'essayer d'avoir une empreinte.
On a aussi des panneaux solaires.
On a des photovoltaïques.
avec la centrale photovoltaïque villageoise. Donc, quand on peut... En fait, moi, je suis quand même pragmatique. Disons que je ne suis pas un militant, mais il y a des choses, ça m'a toujours un peu choqué, mais il faut quand même montrer que ça tourne, quoi.
Donc, on a parlé du rôle du malt dans le brassage, puis de la couleur qu'il apporte à la bière. Et là, ensemble, on va voir le goût aussi qu'il apporte, les arômes, parce que Nicolas, tu nous as réservé la dégustation d'une bière de la soyeuse. Alors, je te laisse la présenter.
Ouais, effectivement, j'ai pris la tradition blonde. Alors, pourquoi tradition? Parce que c'est une gamme, c'est la première gamme qui a été créée ici à La Soyeuse. Et c'est une gamme sur laquelle, effectivement, le but des recettes et du travail en amont du brasseur est de mettre en avant la céréale. C'est vraiment des bières rondes, généreuses. Même vulgairement dire sucré, même si j'aime pas trop ce terme, qui vont mettre en avant finalement cette céréale où on s'est, comme j'ai dit, bien embêté, bien enquiquiné à la...
Donc là, on est 100% malt la soyeuse,
voilà.
C'est ça.
Là, on est 100% malt pils, donc c'est le fameux malt vert, malt blond, donc pas du tout de malt spéciaux, pas du tout de malt torréfié. On est sur une blonde, et du coup, c'est du 100% malt la soyeuse, et donc c'est effectivement la blonde, puisque sur les ambrés, comme l'a expliqué Bertrand avant, on a des maltes spéciaux, et qu'à la soyeuse, on ne prend pas les maltes spéciaux. On ne prend pas notre malt pour les maltes spéciaux. Les maltes spéciaux sont complétés par d'autres fournisseurs, absolument.
Donc, qui sont aussi bio, j'ai vu en arrivant. Tout est en bio à 100%, oui.
Oui.
Déjà une belle couleur, effectivement, de bière blonde. Hein.
Effectivement, bah, on est sur une bière blonde. Il n'y a pas du tout, comme je le disais, de malts spéciaux. Donc, on n'a aucun autre BC que celui du malt d'origine.
Alors, ça, elle s'appelle Tradition Blonde. On pourrait l'associer plutôt à quel style de bière, plutôt une bière type bière de garde du Nord ou plutôt Pilsner ou plutôt...
Alors, pas Pilsner, hein, on est sur une bière plus de dégustation, hein, ne serait-ce qu'au nez, on va avoir vraiment un côté presque mielé qui ressort. Alors, tu la découvres. Hein,
oui, donc, je découvre, là j'ai le miel, un peu le côté compote de pommes, un petit peu fruits compotés.
Ouais. Donc non, on est plus sur des bières avec des levures de fermentation haute.
Okay.
On n'est pas du tout sur des pilsner. On va pas pouvoir appeler ça une bière de soif dans toute la classe qu'est une bière de soif. Pas à croire que c'est vulgaire, une bière de soif.
Alors, c'est un podcast sur le malt, mais on peut aussi quand même évoquer, on a parlé de la levure déjà, mais on peut parler peut-être du houblon. Je suppose qu'il y a des houblons également qui sont utilisés dans cette bière. Ce sont quels types qui sont utilisés? Vous utilisez des houblons européens ou plutôt américains?
Eh bien là, dans cette bière-là, on remarque que le houblon... brille par son absence.
C'est ça. Il est quand même là. Il a un rôle.
Donc,
mais...
c'est un houblon de Suisse alémanique. Voilà. Il y a un collègue qui produit ça. Et c'est un houblon qui s'appelle, ça tombe bien, Tradition, comme la gamme de cette bière qui s'appelle Tradition. Donc, c'est un houblon qui est théoriquement un peu amer, mais comme on en met très, très peu. Moi, c'est les bières originelles. Hein, c'est pour ça qu'elle s'appelle Tradition. Et moi, je n'aime pas l'amertume, enfin pas beaucoup, enfin pas, voilà, faut que ce soit équilibré. Mmh. Et pourquoi c'est bien originel? Parce que, en fait, la bière originelle, c'est la rousse. Quand je vous ai parlé des premiers tests que j'avais faits, ben c'était ça avec une levure de type ABI, les bières belges, parce que nous, notre formation brassicole. Estudiantine, c'était les bières. C'était avec des bières belges.
Si tu passais sur les rangs de David Hubert et Fred Evelin, c'est sûr qu'il y avait l'école belge derrière. Hein.
Bah, déjà avant aussi. Hein, voilà.
Grosse donc, tradition belge en France, hein, c'est vrai.
C'est ça.
C'est vrai.
Que maintenant, je pense qu'elle est plus elle est plus diversifiée.
Bah, chez les jeunes brasseurs, c'est vrai qu'on est parti sur des tendances plutôt nord-américaines, très houblonnées.
Oui, et même chez les consommateurs, je pense qu'avant, il n'y avait que ça. Enfin, je veux dire, il y avait Kronenbourg, enfin, il y avait les 3-4 gros brasseurs, et puis il y avait les Belges, quoi.
C'est ça.
Donc, c'est tout. Il n'y avait même pas trop d'anglaises.
C'est encore très dur de trouver des Anglaises. Hein. Tu disais, Nicolas, que tu avais vécu 2 ans en Angleterre. Moi, j'y ai vécu 10 ans. Et c'est très, très, très difficile de retrouver une bière anglaise dans la région, même à Paris. Hein, c'est un style qui est... Enfin, des styles qui sont très, très propres à Lille et qu'on retrouve peu ici. Ça n'a pas traversé la Manche, bizarrement. C'est
pas trop,
très compliqué, ouais.
Pas trop, c'est vrai.
Et pourtant, ils ont beaucoup de styles.
C'est ça. Et la bière casque manque. tant pis.
C'est dit. Un autre niveau, c'est là. Vrai. La casque ale, là, c'est encore autre chose. Hein.
Mais voilà, c'est dit, mais une bière à 15 degrés, c'est très bon.
C'est vrai. 15 degrés température, hein, pas d'alcool.
Température,
hein.
Température de la salle, on est parfait.
Bon, bah Bertrand, Nicolas, merci beaucoup pour votre accueil à tous les deux et puis pour la visite de la ferme brasserie. Chers auditeurs, à la prochaine fois que vous dégustez une bonne bière, pensez bien au rôle du malt, hein, de cette céréale, à toutes les saveurs, à toute la couleur et à ce goût de pain, de céréales, de miel, de caramel, même de toast grillé et jusqu'au café, au chocolat, au cacao. Toutes ces saveurs viennent du malt. Alors santé, nous on continue à déguster notre blonde tradition. C'était Sur le comptoir de Lisanne, un podcast Ninkasi Stories. Dans le prochain épisode, nous poursuivons notre exploration des différents ingrédients de la bière avec le plus important d'entre eux, l'eau. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un commentaire et 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée et de partager cet épisode à un ou une amie que cela intéresserait. Je compte sur vous. À la prochaine !